musique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Tous unis contre les fake news, les fausses nouvelles. C'est le slogan qui pourrait résumer l'ambition du projet Crosscheck qui sera lancé demain et qui, contrairement à ce que son nom semble indiquer, est un projet impliquant des médias français. Une douzaine de rédactions, pour l'instant, se sont associées au Google News Lab, la division médias du moteur de recherche, pour proposer un outil qui permettra, je cite, « d'identifier et vérifier les contenus qui circulent en ligne, qu'il s'agisse de photos, de vidéos, de commentaires ou de sites d'actualité ». Cette initiative n'est pas isolée, d'autres médias, d'autres réseaux sociaux et d'autres pays sont en train de mettre sur pied des réponses à la désinformation. Ainsi, le journal Le Monde qui lançait au début du mois le Décodex, un outil de labellisation de sites d'information. Ainsi, Facebook qui va mettre en place une arme anti-intox via un dispositif permettant d'améliorer le signalement par ses utilisateurs de fausses informations. Alors, la multiplication de ces initiatives ne doit rien au hasard. Si la diffusion d'infos erronées ne date pas d'hier sur Internet et si la défiance à l'égard des médias relève d'un processus de long terme, il y a eu un changement majeur en novembre dernier avec l'élection de Donald Trump. Car désormais, c'est au plus haut sommet de l'État le plus puissant du monde que cette double remise en cause trouve son principal écho. Il y a donc urgence à réagir. Oui, mais comment et avec qui? À qui confier la vérification de l'info? C'est la question du soir que nous allons poser à Michèle Léridon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice de l'information de l'agence France Presse, l'AFP qui est membre du réseau First Draft. Ça commence, je sens que je vais avoir du mal avec un certain nombre de termes. Réseau qui regroupe 300 rédactions dans le monde, qui a été créé récemment, c'était en septembre 2016. Et l'AFP qui participe à ce projet Crosscheck qui sera lancé demain, dont nous allons évidemment parler dans le courant de cette discussion. Pour discuter avec vous, Louise Merzeau, bonsoir.
Bonsoir.
Professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Vous êtes membre du collectif Savoir comme un et vous avez signé une tribune à l'occasion du lancement du Décodex du Monde intitulé « Et si on pensait la qualité de l'information comme un commun ?» Commun avec un C majuscule. On a déjà fait des émissions sur cette question, mais pas appliquée à la question de l'information. Troisième invité, Antoine Baillet, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de l'information numérique à France Info. France Info, la radio, France Info, la télé ou France Info, les deux?
France Info, Radio France.
France Info, Radio France. France Info qui a lancé, il y a quelque temps de cela, une agence interne, l'agence France Info. Et la chaîne est partenaire de Facebook et de son projet de fact-checking qui a été annoncé début février et qui est en train de se mettre en place. Et puis, quatrième invité, et ce sera le dernier, et il est au téléphone depuis Berlin. Il s'agit de Sam Deberle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur de Eyewitness Media Hub. Peut-être d'ailleurs, d'abord en un mot, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que Eyewitness Media Hub?
Donc, Eyewitness Media Hub, c'était fondé il y a 2 ans pour répondre aux questions d'éthique.
Alors, ce qu'on va faire avec Sam Deberle, parce que si on ne comprend pas dès le début de votre intervention, ça va être compliqué. On va vous rappeler sur peut-être une autre ligne ou sur une ligne fixe. On va voir et on va essayer d'améliorer un petit peu cette liaison entre Paris et Berlin. Normalement, ça devrait être quelque chose de possible. Je précise que vous êtes par ailleurs consultant pour Amnesty International, rédacteur au sein de ce projet Crosscheck. Et Eyewitness Media Hub, je vais le dire à votre place, c'est une société qui conseille les journalistes dans l'utilisation des images qui proviennent des réseaux sociaux. Alors voilà pour les présentations. On va essayer de commencer à répondre à la question de ce soir. Donc, à qui confier la vérification de l'info? Spontanément, Michèle Léridon, on avait envie de dire, c'est aux journalistes qu'il faut leur confier. Est-ce que ce sont, si ce n'est les seuls, en tout cas les principaux garants de la qualité de l'information?
Ah ben, c'est quand même notre métier de base. Alors, notamment pour les agenciers, mais pas seulement. Les journalistes sont là pour chercher l'information et bien sûr la vérifier avant de la diffuser. Donc, c'est vraiment notre travail principal. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on est si sensible à toutes ces attaques et on souhaite y réagir parce que, effectivement, là, on s'attaque au cœur de notre métier, au cœur de nos valeurs. Après, bien entendu, ça n'incombe pas seulement aux journalistes. Et tout le monde, effectivement, doit pouvoir s'interroger avant de partager un contenu sur Facebook ou de le retweeter, essayer de savoir effectivement où est la source, etc. Mais bien sûr qu'en premier lieu, à mon sens, ce sont les journalistes qui doivent faire ce travail-là.
Est-ce que c'est un travail d'autant plus important aujourd'hui, celui de la vérification de l'info, que cette information-là est régulièrement et de plus en plus remise en cause ?
Oui, absolument. On parle beaucoup de défiance vis-à-vis des journalistes. Donc, pour regagner la confiance, il faut déjà en être digne. Donc, oui, il faut que nous soyons de plus en plus rigoureux. Donc, c'est effectivement de plus en plus important. Et puis, il y a effectivement ces accusations qui ne sont pas nouvelles, mais qui maintenant ont pris une ampleur différente, comme vous le soulignez, notamment depuis l'élection de Donald Trump, et qui nous poussent effectivement à nous organiser pour travailler ensemble, non pas contre les fake news, parce que maintenant même le terme, on essaye d'éviter de l'utiliser, puisqu'il est utilisé justement par ces politiques. À chaque fois qu'une information, y compris exacte, n'a pas l'air de leur plaire, ils la qualifient de fake. Donc pour nous, c'est tout simplement détecter les mensonges et la désinformation.
Alors cette rigueur et ce souci de rigueur, il passe notamment par la mise en place de nouveaux outils. J'évoquais, Antoine Baillet, la mise en place de l'agence France Info. Puis il y a également ces rubriques de désintox qu'on retrouve dans un certain nombre de médias, et notamment sur France Info avec le vrai du faux.
Qu'est-ce qu'il y a chaque matin à 8h25, animé par l'excellent journaliste Antoine Crème.
Voilà, ça c'est bien pour faire un petit peu de promo de sa propre chaîne. Qu'est-ce qui a suscité le fait que, à votre avis, qu'on crée ces rubriques-là et ces outils-là? Est-ce que c'était parce qu'il y avait de plus en plus d'informations qui étaient erronées, ou parce que le travail de vérification ne se faisait peut-être pas suffisamment auparavant?
Alors, je vais juste expliquer quelque chose. L'agence France Info, pardon, c'est pas un outil, c'est une nouvelle organisation de notre rédaction. Derrière, ce sont des humains, ce sont des journalistes, ce sont des journalistes de la rédaction de France Info. Simplement, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi compliqué d'être journaliste dans un média d'info continue. Les sources explosent et l'information se retrouve un petit peu partout. Elle va se retrouver sur le fil AFP, elle va se retrouver dans des communiqués de presse, elle va se retrouver sur des tweets, elle va se retrouver dans des interlocuteurs qu'on va solliciter évidemment directement, mais aujourd'hui l'information continue, c'est devenu quelque chose d'extrêmement compliqué. Et face à ça, il est sans doute nécessaire de réorganiser et de mieux organiser ces rédactions, les propres rédactions d'information en continu. Donc effectivement, au sein de France Info, il y a un peu plus de 2 ans, on a décidé de créer une cellule dont le métier est de garantir une info chaude, vérifiée, recoupée à tout moment et qui donne à tout moment ce que France Info sait d'une information. Évidemment.
Donc vous avez recréé l'AFP au sein de France Info ?
Nos sources ne sont pas les mêmes, mais on ne va pas s'en cacher. Hein. Au départ, il y a aussi eu l'idée que une agence qui était extrêmement réputée, extrêmement fiable, et qui l'est à 90%, 99,9% du temps, telle que l'AFP, et qui a longtemps été notre source, je ne vais pas dire unique, mais notre source sur laquelle on fermait les yeux, en fait. On se disait, c'est à l'AFP, on donne. Et petit à petit, on s'est rendu compte que certains de nos journalistes avaient des informations contradictoires. On s'est rendu compte qu'on pouvait aller plus vite à certains moments parce qu'un politique réagit à tel endroit plutôt qu'à... on n'a pas forcément besoin d'attendre la dépêche. Et donc, effectivement, nous, c'est notre cellule d'information chaude qui nous permet à tout moment de pouvoir dire voilà. Sur le front des inondations à Montpellier, on sait précisément que notre envoyé spécial dispose de telle information qui est un petit peu plus aboutie que la dernière dépêche ou l'article de Midi Libre sur le sujet.
Évidemment, ça peut aussi aller dans l'autre sens. Évidemment. Il ne faut pas croire que la production d'informations, d'ailleurs, se limite uniquement aux médias d'information. On a retrouvé Sam de Berlay à Berlin. J'évoquais dans la présentation que je faisais de vous le fait que vous êtes consultant pour Amnesty International. C'est pas totalement un hasard si on l'évoque, parce que Amnesty, cette grande organisation, est elle aussi confrontée à ce défi de la vérification des informations qui lui sont transmises.
Exactement, tout à fait. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien maintenant.
Là, c'est bien.
Donc, excellent. Donc oui, chez Amnesty, on est aussi confronté à ce problème de vérification parce que il y a des moments où des chercheurs d'Amnesty ne peuvent pas rentrer dans un pays. Donc, on est vraiment censé de suivre des histoires, des abus, des droits humains par Internet. Donc, on est quand même confronté avec ce problème en même temps. Donc, si Amnesty partage quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas été bien vérifié, qu'on n'est pas 100% sûr, bon, 99% sûr que c'est vrai, Amnesty serait vraiment confronté à des problèmes beaucoup plus gros, je dirais, que les médias.
Est-ce que c'est un travail que vous faites uniquement en interne ou bien est-ce que vous collaborez avec d'autres sites, peut-être des médias d'information, peut-être d'autres outils pour essayer de recroiser justement les informations qui vous parviennent et pouvoir avoir la certitude qu'elles sont vraies?
Actuellement, chez Amnesty, c'est un travail qu'on fait en interne, mais avec des universités à travers le monde. Donc, on a un partenariat avec l'Université de Berkeley en Californie, l'Université d'Essex en Angleterre, une université en Afrique du Sud et une université au Canada. Donc, on a un grand réseau de connaissances entre ces étudiants qui sont en fait des participants chez Amnesty pour vérifier des faits. Mais ça nous donne aussi une base d'expérience, de connaissances vers ces universités et vers les experts qui sont dans ces universités de trouver des experts dans une langue qu'on connaît pas ou les experts dans une géographie qu'on connaît pas. Donc, vraiment, c'est un projet à l'interne chez Amnesty, mais aussi en même temps, on essaie de le viser vers l'extérieur parce qu'on essaie aussi d'aider les ONG qui n'ont pas les capacités d'Amnesty et de eux aussi de faire de la vérification sur place.
Alors, Louise Merzon, on ne vous a pas encore entendu, c'est ma faute, hein, parce que je ne vous ai pas encore donné la parole. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à Nanterre-la-Défense, à l'université de Nanterre-la-Défense. Ce que nous disait à l'instant Sam de Burley, c'est que finalement, cette vérification de l'information, elle ne passe pas uniquement par les journalistes, même si on le disait au tout début de l'émission, c'est d'abord le métier des journalistes que d'opérer cette vérification. Mais est-ce que vous diriez qu'il est d'autant plus nécessaire d'ouvrir peut-être la vérification dans un monde où aujourd'hui, ceux qui produisent de l'information font l'objet d'une forte défiance?
Oui, bien sûr. Tout est lié, je pense. Les différents aspects là, du problème s'emboîtent parfaitement. C'est vrai que, pour le dire assez rapidement, on peut constater que jusque assez récemment, ceux qui justement contrôlaient, alors j'ose pas dire la vérité, mais en tout cas qui faisaient cette vérification de l'information étaient en même temps ceux qui contrôlaient les canaux de circulation de l'information. Et globalement, au premier rang desquels, bien sûr, les journalistes ou les grands médias, etc. Et évidemment, si ce système semble un peu en crise aujourd'hui, c'est parce que, soit ils ne contrôlent pas plus les canaux, ou en tout cas, ils ne sont plus les seuls
à avoir à leur disposition
voilà, la possibilité de faire circuler de l'information, de travailler à la propagation, etc. D'où, évidemment, une crise à la fois d'autorité, de légitimité et tout simplement, de manière pratique, justement, des capacités de contrôle. Donc, ce qu'on voit, c'est l'émergence d'acteurs qui eux-mêmes existaient déjà sans doute avant disons l'ère numérique, mais qui occupent aujourd'hui, qui peuvent occuper en tout cas des postes beaucoup plus actifs justement dans non seulement la propagation d'informations, mais justement la constitution de disons forces d'opinion autour de ces informations qui circulent. Alors évidemment, bon, typiquement c'est dans l'émergence des réseaux sociaux qui a vraiment dynamisé ça. Et c'est vrai que donc c'est des problèmes qui sont tous pas forcément nouveaux, mais dans un contexte qui est complètement reconfiguré et qui mélange des questions pas seulement de fiabilité, de vérification des sources, des infos qui circulent, mais beaucoup des questions d'autorité, de confiance. C'est là qu'est vraiment la crise, en fait.
Alors, cette reconfiguration des canaux, elle se traduit notamment par le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos concitoyens s'informent exclusivement sur les réseaux sociaux. C'est ce qui ressortit du dernier baromètre La Croix. Pour 24% des personnes interrogées, les réseaux sociaux sont devenus, alors pas exclusives, mais la principale source d'information. C'est en une augmentation de 5 points par rapport à 2016. Est-ce que c'est ce qui vous a conduit, Michel Léridon, à travers l'AFP, à participer à ce projet Crosscheck, dont il faut peut-être d'abord dire un mot pour que les auditeurs comprennent de quoi il s'agit, et nous expliquer en quoi finalement cette alliance, parce que c'est un petit peu ça le principe entre les grands acteurs que sont Google et dans une moindre mesure Facebook, et puis un certain nombre de rédactions, a pu se faire, alors que jusqu'à présent on était plutôt dans deux mondes qui se regardaient un petit peu en chien de vaillance, mais qui ne travaillaient pas vraiment ensemble.
Oui, c'est pas tout à fait ça. Nous, enfin, l'AFP, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on a créé une cellule réseaux sociaux qui est chargée à la fois de veiller et de faire une veille sur les réseaux sociaux, parce qu'il peut y avoir des contenus intéressants.
Oui, mais qui dit faire une veille avec sur les réseaux sociaux ne veut pas dire travailler directement avec Google ou Facebook.
Et par ailleurs, qui a sa propre page Facebook, nous avons notre compte Twitter, etc. Donc c'est vrai que c'est pas travailler forcément avec eux, mais c'est vrai que je me méfie, compris, oui, effectivement, des sondages où on dit les gens lisent sur les réseaux sociaux, mais ils lisent aussi, ils peuvent lire Le Monde sur Facebook, et je cite souvent l'exemple des attentats de Charlie ou du 13 novembre, où sur Twitter, des gens, des internautes, enfin voilà, le grand public disait, allez sur le compte AFP et vous aurez les informations, arrêtez de retweeter tout et n'importe quoi, des explosions à la Tour Eiffel et que sais-je, allez sur le compte AFP. Donc voilà, j'essaye de qu'on ne dissocie pas trop l'AFP d'une part, les médias traditionnels d'une part et les réseaux sociaux, parce que maintenant c'est une question d'outils et de la façon de voilà.
Alors vous les dissociez d'autant moins que vous avez lancé, enfin que vous lancez demain ce projet Crosscheck. Ça
oui.
Consiste en quoi ?
C'est une alliance entre différents médias pour vérifier l'information. On nous remonte les contenus qui nous paraissent douteux, on peut les trouver également, et on utilise tous nos réseaux pour contrôler cette information, à la suite de quoi on écrira un post de blog qui sera effectivement supervisé en fin de compte par l'AFP et diffusé sur la plateforme de Crosscheck.
Alors Sam de Burley, vous allez justement vous être rédacteur chez Crosscheck, si le lancement n'est pas encore effectif, puisque ce sera demain. J'imagine que vous avez déjà quand même une idée assez précise de ce en quoi va consister votre mission au sein de ce projet.
Oui, tout à fait. Donc, on se lance demain. Mais il y a une grande différence que je veux souligner avec Crosscheck. Et ce qui est vraiment nouveau avec Crosscheck, c'est que, à mon avis, pendant ces 5 dernières années, les journalistes, ils ont vraiment appris beaucoup sur la vérification. Mais ce qu'on a fait dans le monde des médias, c'est qu'on a vérifié quelque chose. Et une fois qu'on a vu que c'est pas vrai, on a complètement ignoré. On a mis à côté. Donc, cette information a continué à circuler sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Mais les médias n'y ont pas mis un doigt. Ils n'ont pas dit, bah, attention, le public, ceci n'est pas vrai. Donc, ce qu'on va faire avec Crosscheck, et c'est vrai que, bon, au bout de cette année, ces deux dernières années, on a commencé à le faire. Mais ce qu'on va faire avec Crosscheck, c'est de dire, bon, ceci est vrai, mais attention, ceci est faux. Et vous pouvez aller voir, le public va pouvoir aller voir les deux. Et c'est là vraiment la grande différence avec Crosscheck. Donc, avec aussi cette collaboration entre, on a en fait 34 médias qui sont partenaires de Crosscheck maintenant, avec ce réseau où chaque média va aussi pouvoir voir le système de vérification qu'a fait l'autre, et on va aider chacun de dire, bah, attention, ceci n'est pas vrai, on sait très bien que ceci n'a pas eu lieu à Marseille. Donc avec ces deux points sur Crosscheck, c'est vraiment une grande différence. Donc tout à fait, la première chose, la collaboration des médias français, et deuxième chose, c'est de montrer au public ce qui est vrai, mais aussi ce qui est douteux.
Alors, collaboration des médias français, pas tous les médias français pour l'instant,
pas
bien
tous
entendu.
Les médias français, bien sûr.
Antoine Baillet, France Info, ne fait pas partie, pour l'instant en tout cas, de ce partenariat, de ce projet.
Exactement.
Pour quelle raison ? Et Radio France non plus, d'ailleurs.
Soyons très très précis, France Info est membre du réseau First Draft News. qui a créé CrossCheck, mais nous n'avons pas participé, nous ne prenons pas part pour l'instant effectivement à CrossCheck, bah, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a quand même, et c'est une décision qu'on a prise en concertation avec les différentes rédactions de Radio France, ainsi que la direction numérique de Radio France, qui sont effectivement on réfléchit régulièrement à nos relations avec les réseaux sociaux. Et il y a eu quelque chose de très particulier sur cette initiative, c'est qu'on a eu l'impression qu'on était un peu pris dans une bataille de com. Ce qui s'est passé autour de cette initiative, c'est que il y a eu des indiscrets dans les médias qui disaient « Les éditeurs français vont lancer un site collaboratif pour l'élection présidentielle 2017, etc. » avant même que la première réunion ait lieu. Nous, ça nous a un petit peu interpellés, ça nous a un petit peu déstabilisés.
C'est quand même pas la principale raison pour laquelle on participe à ce projet, parce que ça serait une forme de susceptibilité.
C'est pas une forme de susceptibilité, mais c'est quand même une question de savoir quelle est notre place vis-à-vis des grands acteurs que sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est eux les propriétaires des tuyaux.
Alors, on le voit,
et voilà. Nous devons avoir une relation avec eux qui est quand même un petit peu équilibrée. Et
alors, là, quand quand vous parlez de réseaux sociaux, vous n'avez pas la même définition de Michel Guéridon. Là, vous parlez de Google, par exemple.
Je parle de Google, je parle de Facebook, je parle de Twitter, qui sont des grandes entreprises. Facebook, aujourd'hui, est l'un de nos points principaux d'accès à l'audience. On distribue beaucoup d'informations sur Facebook. On veut aller sur Facebook qui distribue notre information. De la même manière, on distribue énormément d'informations sur Twitter. Ce sont des lieux de contact essentiels avec l'audience. Mais quelque part, on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de Google, de Facebook, pour parler entre nous, entre rédactions? Et on s'est dit que c'était qu'il y avait un petit côté un petit peu, qui nous titillait un petit peu. Et on a préféré pour l'instant, dans un premier temps, en attendant de voir ce qu'il allait sortir concrètement de CrossCheck, peut-être de se dire qu'on allait travailler entre différentes rédactions de manière plus informelle. Vous l'avez souligné tout à l'heure, on a une rubrique de fact-checking qui est à l'antenne de France Info depuis la rentrée 2013. Donc quand j'entends notre interlocuteur dire que les médias ne disaient pas ce qui était vrai, ce qui était faux comme information, c'est pas le cas. C'est un choix éditorial qu'on a fait depuis ce moment-là de porter le fact-checking, cette vérification de l'information, très fortement.
Louise Merzo, qu'est-ce que vous pensez de cette réserve qui vient d'être exprimée à l'égard
ces... Fait, je pense que là, on est vraiment au cœur du... Enfin, en tout cas, une des questions centrales du sujet, c'est effectivement cette lutte d'autorité entre donc les grands acteurs du web, ce qu'on appelle depuis tout à l'heure les réseaux sociaux, et puis les grands médias. Parce que, bien sûr, j'entends bien ce que disait tout à l'heure Michel Guéridon, les grands médias sont sur les réseaux sociaux depuis déjà fort longtemps, mais c'est pas du tout la même chose d'aller voir une information, peut-être sur le site du Monde ou d'un grand média, mais en fait, en retrouvant cette info par le biais d'une conversation dans un réseau social. C'est-à-dire que là, en fait, cette info, elle est labellisée, non pas par le décodex, mais par un proche, mon ami, mon voisin, quelqu'un, en fait, à qui je vais faire confiance spontanément. Et donc, c'est un système de recommandation. C'est ça le principe même du réseau social. Et donc là, il y a toute une chaîne d'autorité et de confiance qui fait que, oui, bien sûr, ça ne m'exclut pas complètement des grands médias, mais c'est pas du tout la même chose que d'acheter tous les matins mon journal ou d'écouter tous les matins ma même station de radio. Et voilà, d'accorder aussi là une espèce de confiance globale, de principe, une sorte de ce qu'on appelait souvent un contrat de lecture. C'est pas du tout la même chose.
Et alors, justement, que des groupes comme Google, Facebook ou encore Twitter jouent le jeu ou semblent jouer le jeu aujourd'hui de la vérification de l'info, est-ce que ça vous semble quelque chose justement de plutôt sain parce qu'ils prennent peut-être conscience des responsabilités qui sont les leurs?
Ils ne sont pas seulement des
tuyaux, mais aussi des...
Oui, mais bien sûr, c'est inévitable. Je pense que, à la fois, je peux très bien comprendre des réticences de tel ou tel acteur justement à suivre un petit peu le mouvement qui maintenant est de plus en plus initié justement par ces grands acteurs du web. En même temps, c'est très bien, je crois, que tout le monde, à la fois ces grands acteurs, mais eux, je pense qu'ils le savent depuis longtemps, mais les médias plus traditionnels aujourd'hui, se rendent compte que justement, ces réseaux ne sont précisément pas que des canaux. Et que, en fait, ce sont. Ils instaurent des protocoles éditoriaux. C'est eux aujourd'hui qui autorisent à publier, à faire circuler l'info, à la relayer, à la recommander. Et voilà, c'est une autorité de fait. Et donc aujourd'hui, il faut la penser comme telle, effectivement. Après, chacun est libre, justement, de se positionner dedans ou d'essayer de faire des choses alternatives à côté, quoi.
J'imagine que c'est une question que vous vous êtes posée à l'AFP, Michel Léridon.
Oui, tout à fait. Effectivement, on a bien vu cette bataille de com, en effet, qu'il y a eu entre Google et Facebook, à tel point que les deux projets ont été annoncés en même temps, parce qu'il y avait une petite guerre entre eux. Nous, on est dans les deux projets, donc on n'a pas de souci avec ça. Ce qui est sûr avec CrossCheck, c'est qu'il y a une implication quand même forte de Google, avec une formation d'étudiants, avec une formation y compris dans d'autres rédactions de journalistes, à plein d'outils pour vérifier effectivement les informations, les photos, les vidéos, etc. Donc il y a une véritable implication. Il faut préciser que ce projet, pour l'instant, court sur l'élection présidentielle. Hein, il s'arrête après ça. Et moi, je pense qu'effectivement, nous, pourquoi on a accepté ? Parce que effectivement, notre voix, on a envie qu'elle porte. Là, ce n'est pas une question de concurrence entre médias et de dire, tiens, lui, il s'est planté, chouette. On a le sentiment qu'effectivement, c'est notre métier qui est attaqué. Donc, ce qu'on veut, c'est que la voix porte. Et ce qu'on veut, c'est que l'information réelle passe. Je vais vous donner un exemple. Crosschecks, donc, ça démarre demain. Mais bien sûr, on a commencé un petit peu à blanc. Ce matin, notre équipe, voilà, a été sollicitée sur l'histoire. Quelqu'un qui avait tweeté l'histoire d'un prêtre à Avignon qui avait été agressé et les méchants médias n'en parlaient pas. Partagé sur Facebook 35 000 fois à midi. Bon, il se trouve que c'est une information, pour nous c'est extrêmement facile de vérifier, c'est une information qui remonte à 2013. Le partage sur Facebook date du 15 février et dit lundi dernier. Bon, il se trouve que ça date de 2013, les médias en ont parlé, il y a eu une dépêche AFP, il y a eu un article de Midi Libre, etc. Donc voilà, et effectivement, là où je suis d'accord avec notre collègue d'Amnesty, c'est qu'effectivement, dans le passé, on ne l'aurait pas donné. On aurait dit, ben oui, c'est une bêtise, c'était il y a 3 ans, et donc ça n'a pas de sens. Sauf que ça porte. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, au-delà de la marque AFP, la marque Le Monde, France Média Monde, etc., c'est quand même que, quelque part, le citoyen sache que... c'est faux. Oui, certes, l'agression, elle a eu lieu, mais elle remonte à 3 ans. C'est pas vrai que les médias n'en ont pas parlé.
Antoine Maillet, dans cet exemple-là, que nous apporte la relation avec le réseau social ?
Le fait justement de le diffuser, parce que vous,
vous avez une présence sur les réseaux sociaux par vous-même. Pourquoi avoir besoin d'un partenariat avec l'acteur Facebook ou Google ? À ce moment-là, c'est ça que je comprends
parce
pas
que
en fait.
L'idée, enfin, me dis si
ouais. je pose la question
compris,
évidemment.
Mais... L'idée, c'est de faire, je sais pas sous quelle forme, une espèce de notification de pas de labellisation, mais bon, il y a un marquage quelque part.
Quand les gens vont se
relayer entre eux cette information fausse,
l'a dit tout à l'heure, il y a deux initiatives. Qui se passent de manière concomitante et qui ont été annoncées par Google d'un côté et par Facebook de l'autre le lundi 6 février. Mmh. Celle dont vous parlez, qui est assez intéressante, c'est celle qui est lancée par Facebook, effectivement. Mmh. Et Facebook sollicite des rédactions et leur propose quelque chose d'assez inédit. Leur soumet des articles qui sont largement partagés et des journalistes vérifie cette information et ensuite Facebook fera apparaître et fera une mention un marquage. Par ailleurs, Facebook s'engage aussi à le mettre un petit peu moins en avant dans son algorithme. Et là, c'est quelque chose qui est très intéressant, très amusant, c'est que Facebook sollicite des journalistes pour permettre à une information d'être plus ou moins visible via son algorithme. Cette initiative-là, à Radio France, on a très envie de s'y associer, on va s'y associer. À l'inverse, Je maintiens sur cette histoire de ce matin de votre prêtre d'article de 2013.
Oui.
Il n'est nul besoin d'avoir un partenariat avec Facebook ou Twitter ou Google pour la traiter comme une information.
Parce que là, j'ai cité quelque chose qui pour nous était extrêmement facile. Effectivement, moi, je pense qu'il faut effectivement s'allier pour travailler ensemble et pour diffuser le plus possible d'informations sur les véritables informations.
Sam de Burley veut justement réagir parce que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sam de Burley, mais on peut aussi peut-être répondre à Antoine Baillet qui a une force de frappe qui est celle de ces groupes, qui n'est pas celle de ces médias qui resteraient isolés. Force de frappe d'ailleurs en termes de visibilité et puis aussi peut-être force de frappe en termes de moyens qui peuvent être alloués à la vérification de l'information. Vérifier l'info, ça demande des moyens humains et toutes les rédactions ne sont peut-être pas en mesure de le faire. Mais enfin, je vais vous laisser répondre, Sam Deverley.
J'ai plusieurs points que je voudrais soulever là. Donc tout d'abord, CrossCheck, c'est soutenu par Google. Il n'y a personne de Google qui nous dit quoi faire, de quelle histoire à suivre. Ça vient vraiment du partenariat. Donc pour cette histoire du prêtre ce matin, c'était une histoire qui a été soulevée par la rédaction de Centre France à la montagne. Et puis, toute la vérification s'est faite via le réseau de CrossCheck. Et puis d'un coup, c'était aussi publié sur Le Monde, Décodeur et sur LCI. Donc d'un coup, c'est un des partenariats de CrossCheck a trouvé l'histoire, a donné au réseau de CrossCheck. Tout le monde ensemble l'a vérifié. C'était publié sur Le Monde et LCI et peut-être ailleurs, je ne sais pas encore. Donc oui, c'est soutenu par Google, mais personne de Google n'avait un droit là-dedans.
En même temps, Sam Deverley, pardonnez-moi, ça donne peut-être aussi une visibilité à une fausse information que cette fausse information n'aurait pas eue avec cet écho-amplificateur. Non ?
Bon, c'est toujours le risque, bien sûr, mais c'est vrai que, comme a dit Michel Ridon, c'était partagé 35 000 fois, je pense, sur Facebook. Là, au moins, on a un équilibre, une balance contre le fait que c'était partagé. Donc, espérons que quelqu'un le voit et le partage aussi sur leurs réseaux sociaux en même temps.
J'ajoute.
C'est important de collaborer là-dessus, parce que sinon, on va tous travailler dans un vacuum et puis, ce sera difficile.
C'est une vraie question. Peut-on faire une information à partir de quelque chose qui, au départ, est une fausse information? Oui, bien sûr, il le faut. Et je vais même aller plus loin que ça. C'est pas uniquement le fait que ce soit largement partagé. C'est-à-dire que le critère du 35 000 personnes ont diffusé cette information-là ne suffira pas forcément à tuer cette information-là. On pourrait se dire que c'est ça le critère pour en faire une information. Mais on peut même aller plus loin que ça. Parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est de réagir très vite. C'est-à-dire que peut-être que quand Centre France a repéré cette histoire, c'était partagé 500 fois. Si l'information est, on dit dans un superbe terme de franglais, débunkée, si on remonte à la source de l'information plus vite et qu'on produit plus rapidement un article disant « cette information est fausse », alors elle sera d'autant moins partagée. Voilà.
Sam Deverley, vous vouliez poursuivre ?
Ben, je suis peut-être d'accord, mais en même temps, c'est un phénomène qui se passe. Donc, c'est pas parfait encore, mais avec CrossCheck, c'est pas parfait encore. On va voir dès demain comment ça fonctionne dans la réalité. Mais on a fait des tests aujourd'hui, on a trouvé 3 histoires fausses qui circulaient sur les médias sociaux et on a réussi à répondre à une. Bon. C'est vrai que peut-être on n'est pas à ce moment-là assez rapide, mais on va aussi avoir de l'expérience, on va montrer comment ça fonctionne avec les partenariats et espérons que ça devienne beaucoup plus rapide. On a aussi des partenaires technologiques, CrowdTangle qui montre les histoires qui sont virales sur Facebook par exemple. Donc on a des moyens aussi de voir des histoires qui vont très rapidement, qui se partagent très rapidement dans le réseau social.
Alors évidemment, on peut que se réjouir, même si après il peut y avoir des divergences sur les modalités à mettre en place pour ces partenariats en termes de vérification de l'information, mais c'est plutôt bien quand même qu'il y ait ce genre d'initiative. Sauf que vous avez quand même soulevé un petit peu le problème, Antoine Maillet, c'est-à-dire c'est pas parce que ces initiatives-là existent et que certaines informations fausses auront été qualifiées de fausses et de manière très exposée que ceux qui ont quand même envie peut-être de les croire n'y croiront plus. Comment est-ce qu'on fait, Louise Merzeau, et là j'en viens à votre collectif Savoir Commun, pour donner une forme de légitimité à la vérification de l'information? Là, si on reste avec peut-être des journalistes et puis des réseaux sociaux qui maîtrisent les canaux, on est peut-être encore quand même dans un monde qui fait l'objet de cette suspicion dont on parlait au début de l'émission.
Oui, puis j'écoute notre conversation, on donne l'impression qu'on parle de choses très objectives, où on est dans le quantitatif, alors que c'est d'abord des phénomènes de croyance. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'effet. Bien sûr, il y a des faits vérifiables, etc. Mais là où ce qui fait problème, c'est qu'on est dans des phénomènes de croyance et de confiance, je l'ai dit à plusieurs reprises déjà. Et c'est vrai que Je crois qu'il faut, il y a plusieurs dispositifs sans doute possibles, il faut que chaque média se régule lui-même. Donc c'est vrai que je ne pense pas que si c'est les médias traditionnels qui disent ce qu'on est en train de raconter sur Facebook, c'est faux, mais en restant complètement à l'extérieur, je pense que ça n'aura aucun effet. Donc après, il faut voir comment on y va, etc. Mais il faut que le média lui-même se régule lui-même avec sa communauté, avec ses règles, avec justement le contrat de lecture que tous les gens qui sont dans ce média ou qui l'utilisent reconnaissent. Donc je pense qu'il faut intégrer effectivement des logiques beaucoup plus communautaires. Et bien sûr, c'est celle que nous, on a tenté de proposer dans le collectif Savoir Commun. Alors, en ajoutant, je dirais, bon, une idée un petit peu différente de ce qui est discuté là à propos simplement du journalisme, c'est l'idée que la qualité de l'information, on peut aussi considérer, c'est pas seulement un problème de fiabilité ou de professionnalisme des uns ou des autres, c'est un bien commun. C'est-à-dire que toute la communauté, bon, par exemple nationale, si on reste par exemple dans le cadre des élections, de l'élection présidentielle, bon, il y a une collectivité qui collectivement a intérêt à ce qu'il y ait une qualité de l'information pour la délibération, pour la circulation et la formation des opinions, etc. Donc ça, je pense que ça peut sembler bon, une nuance, mais en fait, ça change complètement le point de vue sur cette question de la fiabilité.
Et ça pourrait se traduire comment ? Par un système de labellisation serait ouvert à l'ensemble, je sais pas, des citoyens, enfin l'ensemble des citoyens en tout cas, à une sphère un peu plus large celle des journalistes.
Il y a deux choses. Dans la plupart des discussions qu'on a eues, bon, nous-mêmes, on n'a pas du tout encore élaborer un dispositif, mais on lance un petit peu des questions hein, et des propositions. Mais dans nos échanges, on est à peu près tous tombés d'accord que l'idée d'une labellisation, c'est pas très malin, c'est sans doute assez inefficace. En revanche, et d'ailleurs, c'est aussi un aspect qui est déjà dans le décodex, le fait de catégoriser les sources, de les situer, de dire au moins, bon, là, sur ce site, voilà, c'est qui parle, d'où ça vient, où on est, parce que le problème, c'est que souvent sur Internet, on lit des choses et en fait, on ne sait pas très bien qui parle, d'où ça vient, à qui appartient ce site, etc. Donc déjà, situer les sources, essayer de remonter justement la source d'une information qui circule, ça c'est déjà... Donc c'est plutôt un travail de cartographie que de labellisation. Bon, ça c'est pour répondre un peu au décodex avec ses pastilles de couleurs. Et sur l'aspect commun, bah, ça serait l'idée de... Nous, on s'est beaucoup inspiré, si vous voulez, dans notre suggestion, de l'expérience de Wikipédia, où on voit très bien que là... Alors, ce n'est pas dans le domaine de l'information, c'est une encyclopédie, mais je pense qu'on peut quand même voir que là, on a un dispositif qui est purement collaboratif, contributif, qui ne repose pas sur des expertises. Il n'y a pas un préalable d'expertise et qui devient une source de référence majeure aujourd'hui.
Hein. Même s'il y a eu un cas récent avec le journaliste du Monde, Pierre Barthélémy, bah c'est
assez récent. Mais c'est discutable, mais l'intérêt, voilà, c'est que justement, c'est discutable.
Juste, laissez-moi expliquer de quoi il s'agit, parce que sinon, les gens pourront rien comprendre. Qui est un journaliste scientifique du Monde qui a fait un canular, enfin, qui a fait un article, en tout cas fantaisie, sur un savant grec de l'Antiquité. L'article, son article est resté pendant 6 semaines sur Wikipédia, et c'est lui qui a prévenu les responsables du site en lui disant c'était des informations erronées parce qu'il avait fait le constat que ça n'avait pas été modifié. Bon, ce qui ne remet pas évidemment en cause l'ensemble de ce projet fantastique et auquel on se réfère quotidiennement qui est Wikipédia, mais voilà, c'est pas non plus l'assurance d'une information fiable à 100%. Michel Léridon.
Moi, ce que je pense, c'est vrai que les faits, ne sont pas tout. Mais malgré tout, même quand vous dites remonter à la source et faire une cartographie, ce sont quand même des faits. Mais je reconnais qu'effectivement, maintenant, ce qui touche aussi, c'est l'émotion, c'est le parti pris politique, etc. Et donc, jusqu'à un certain point, on pourra effectivement pas toucher des gens qui, de toute façon, pensent qu'on est tous pourris et que on raconte n'importe quoi. Donc, et s'il y a d'autres façons de les toucher, tant mieux. En revanche, je pense quand même qu'il y a beaucoup de citoyens de bonne foi qui retweetent, qui partagent des informations erronées. Et déjà, si on peut s'adresser à eux et qu'ils sachent que quand ils retweetent quelque chose, ils s'exposent à diffuser une information erronée, ça sera déjà un pas en avant. Je ne dis pas que c'est parfait, comme ça a été dit. Hein, c'est un projet qu'on lance demain et on verra et on l'affinera. Mais je pense quand même que ça ne peut qu'apporter du mieux.
Antoine Baillet.
Il y a quelque chose d'extrêmement positif dans le déroulé de l'émission. On commence en se disant que ce sont les journalistes qui sont les gardiens du temple un petit peu. Après ça, on s'interroge sur nos rapports avec les grands acteurs du numérique, avec des approches différentes, on l'a vu. Et là, on est en train de s'intéresser aux citoyens. Et quelque part, alors j'ai pas forcément la même vision que vous sur la question de labelliser l'information ou pas et comment on peut faire. Mais en tout cas, la question centrale sur qui vérifie l'information, effectivement, moi je pense qu'elle repose aussi, quelle que soit la qualité de l'information produite par les journalistes, sur les utilisateurs, sur l'internaute, sur l'auditeur, sur le téléspectateur. On a une information qui est de plus en plus liquide, dont les caractéristiques changent de plus en plus, et du coup, ça, la question de la vérification finale repose effectivement sur les utilisateurs. C'est quelque chose qui, pour nous journalistes, est peut-être dur à encaisser, puisque pendant longtemps, on a été un petit peu les gardiens du temple.
Voilà, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à nous contacter ce soir si, par exemple, on a dit des bêtises pour vérifier certaines informations. Non, merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion qui, comme chaque soir, mais particulièrement ce soir, a passé très, très vite. Michel Deridon, directrice de la formation à l'AFP. Merci Sam Duberlet, vous étiez au téléphone depuis Berlin. Vous êtes un des rédacteurs de ce projet Crosscheck. Louise Merzeau, professeure en sciences de l'information à Paris-Ouest Nanterre à La Défense, et Antoine Baillet, directeur de l'information numérique à France Info. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Bayer, Louise Fuseau. Émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec à la prise de son Bruno Gagnard Fontanille. Demain, va-t-on vers une agriculture data intensive? Nous serons en direct du stand AMESA au Salon de l'Agriculture à Paris. Venez nombreux, comme on dit d'habitude dans ces cas-là.